Radio Okapi.
La grande édition du journal avec Belinda Bossouma.
À la une, Goma, il est strictement interdit à tout taximène moto et autres usagers privés de circuler au-delà de 19h, ce à partir du 4 septembre prochain, décision du maire de la ville de Goma à la suite de l'insécurité persistante, surtout la nuit. Une épidémie ravage des bêtes depuis plus de 2 mois à Dibaya, au Kasaï central. L'alerte est du coordonnateur de la structure dénommée Sekodek. Ali Chitoko parle d'une situation qui a déjà touché plus de 10 000 bêtes et demande l'intervention des autorités compétentes. Et puis, journée internationale des personnes disparues, c'était le 30 août. Une journée qui rappelle que derrière chaque disparu, il y a une famille qui cherche à être un être cher. Mais quel est le sens de cette journée, spécifiquement pour la région de Beni? Réponse avec notre invité, Jean-Paul Kapitula. Il est le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Toute circulation des mototaxis au-delà de 19h est interdite à partir du 4 septembre prochain dans la ville de Goma. Cette mesure du maire fait suite au regain d'insécurité avec une série de meurtres observés depuis lundi dans la ville, souvent la nuit. La décision de l'autorité urbaine est contenue dans un communiqué de presse rendu public hier. Plus de détails avec Gabriel Wamenia.
Le maire de Goma, Kabeya Makosa François, vient d'interdire la circulation des taxis-motos au-delà des 19h sur toute l'étendue de la ville de Goma. La signature de ces communiqués survient après que les taximens-motos ont été victimes des tueries par des hommes non entièrement identifiés et les vols à répétition de leurs engins roulants devenus monnaie courante dans la ville. Il est strictement interdit à tout taximens-motard et autres usagers privés de circuler au-delà de 16 heures, indique le maire dans ses communiqués. Dans ces mêmes communiqués, le maire exhorte les motards ainsi que d'autres propriétaires de prendre des dispositions nécessaires pour regagner leur domicile à partir de 18h30. À en croire le même document, les forces armées se saisiront de tout récalcitrant et à tout autre individu qui ira à l'encontre de cette décision de l'autorité urbaine. Signalons que cette mesure intervient quelques heures après une fusillade impliquant 2 motards, des tirs qui ont fait 1 mort et 7 blessés lundi dernier dans la commune de Karisimbi. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Nous poursuivons ce journal toujours au Nord Kivu, où le général autoproclamé Moïsa Chimirai Guidon est depuis quelques jours dans un processus de reddition avec une centaine de ses combattants. L'annonce a été faite aux médias hier par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekoukali Popo. Mais sur le terrain, les sources indépendantes ne confirment pas encore l'information. Bernard Denyangi nous en dit plus.
C'est au sorti d'un échange avec le conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu sur l'état de siège hier mardi à Goma que le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romi Ekoukali Popo, a annoncé que le chef rebelle Guidon Chimirai Moïsa était déjà entre les mains des forces armées de la RDC depuis quelques jours. Selon ses propos, ce général autoproclamé avec ses hommes sont cantonnés momentanément dans un coin du territoire en attendant le lancement officiel du processus PDDRCS. Des sources sécuritaires rapides disent qu'effectivement, Moïsa Guidon s'est récampé depuis fin août avec ses 300 hommes en pofi dans le groupement Utunda, au nord du territoire de Walikale. Selon elle, ce serait soit pour sa reddition, soit pour celle de ses hommes qui l'accompagnent. Le porte-parole du gouverneur de province, le général Sylvain Ekenge, qui parle lui aussi d'un processus de reddition, affirme que depuis environ une semaine, une cinquantaine d'hommes de Guidon se sont déjà rendus au FRDC, au chef-lieu de Walikale. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, une nouvelle attaque attribuée aux EDF a coûté la vie à 3 personnes dans le village de Maimoya. Selon la société civile Noyo Doicha, le drame a eu lieu hier soir sur l'axe routier Maimoya-Makulu. Le président de la société civile Noyo Doicha, qui déplore cette énième attaque, invite les autorités militaires à ne pas négliger les alertes faites par la population pour éviter que pareille situation ne se répète indéfiniment. Patrick Kakule, joint par André Kitenge.
Ce
17h vers le soir, hier environ de 16h, les ennemis IDF ont rencontré trois machinistes sur l'axe Makuru à Maïmoya. Donc c'est à 3 km de Maïmoya sur l'axe Maïmoya-Makuru. Et ils les ont rencontrés, ils les ont abattus et ils les ont emportés toutes leurs machines, tout ce qu'ils avaient. Enfin, c'est un fait que nous sommes en train de regretter jusque maintenant parce que la population de cet endroit avait déjà alerté les positions militaires de Matombo, Kisiki et Maïmoya qui avaient des ennemis aux alentours de Maïmoya. Malheureusement, voilà ce qui vient d'arriver. Nous sommes en train de regretter ces faits. Maintenant, la situation est au calme, d'autant plus que c'est devenu comme à l'accoutumée, où après qu'on vient de tuer, et puis tout revient encore comme normal, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de poursuite de l'ennemi. Donc, tous les faits se passent comme si de rien n'était. L'ennemi vient, il tue, et quand il vient de tuer, là, tout finit.
Tous les efforts pour joindre le porte-parole des opérations Sokola 1 se sont avérés vains. Entre-temps, en Ituri, une vive tension a régné hier au PK-51 dans le territoire de Mambasa. Des conducteurs de taxi-moto protestaient contre l'installation d'une barrière de la police de circulation routière qui fait payer de l'argent aux motards. Selon des sources sur place, le trafic sur la route nationale numéro 4 a été paralysé. Pour rétablir l'ordre, les éléments des forces de l'ordre ont dû faire des tirs de sommation. Le récit de Clarisse Zin.
Pour manifester leur mécontentement, ces motards ont organisé une marche de contestation. Ils se sont dirigés hier jusque là où cette barrière était érigée, qu'ils ont par la suite arrachée, affirment nos sources. Les éléments de la police ont dû tirer des coups de feu pour disperser les manifestants. Apprend-on, un motard a été appréhendé puis relâché. Toujours selon des sources locales, cette manifestation a démarré depuis au moins 3 jours. Le trafic sur la N4 était paralysé. Les passagers en provenance ou en destination de Kisangani ne savaient plus poursuivre leur voyage. Aux dernières nouvelles, le passage est de nouveau libre sur ce tronçon. Contacté, le commandant de la police en territoire de Mambasa dit que c'est le chef coutumier local qui a instauré une taxe de péage où tous les motards sont obligés de payer 1000 francs. Il s'agit d'une route de déserte agricole récemment réhabilitée par une entreprise d'exploitation minière, ce qui n'enchante pas la population, déclare-t-il. Pour cet officier de la police, les éléments sont accusés à tort dans cette affaire. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
La ville de Kindu fait face ces derniers temps à une insécurité grandissante avec des incursions nocturnes. La population locale n'y passe plus des nuits paisibles par crainte d'être visitée par les inconnus. Préoccupée, la société civile qui le rapporte a rencontré le gouverneur intérimaire du Maniema pour échanger autour des nouvelles stratégies à prendre pour mettre fin aux actes de banditisme dans la ville. Maître Stéphane Kamundala a déploré le fait que les services de sécurité ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, dit-il. Il a dit au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez la situation que traverse la population du Maniema ces derniers temps, qui n'est autre que celle de l'insécurité, des visites intempestives dans les maisons. Et le cas qui a révolté, qui a fâché, c'est celui d'aujourd'hui où la femme a été non seulement tabassée, son mari tabassé, mais en plus violée. Ça fait que la coordination provinciale de la société civile prenne l'initiative de rencontrer le gouverneur et à l'issue des échanges pour monter des stratégies afin de lutter contre l'insécurité, lui comme exécutif provincial et nous comme coordination de la société civile qui est toujours à côté de la population. Nous déplorons d'un le fait que nous avons les services de sécurité qui sont appelés à nous sécuriser, nos populations, de manière régulière et permanente, mais nous estimons qu'ils ne sont pas à la hauteur. Nous pensons à notre niveau, comme société civile, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons mener nos actions de maintenant, accompagner l'autorité provinciale et faire d'autres actions à titre individuel, comme société civile, pourvu que la paix revienne dans la ville de Kindu et dans l'ensemble de la province de Maniema.
Province de la Tchopo, un groupe de bandits a été arrêté par la police nationale à Kisangani et présenté hier dans la soirée au gouverneur de province. Au total, 8 personnes, parmi lesquelles un militaire fardessé, un taximène moto et un vendeur de chanvre. Selon des sources proches du commandement urbain de la police, c'est hors la loi opérer sur la nationale numéro 4, axe Kisangani-Nyania et au bloc Motumbe, au quartier Plateau Boyoma, dans la ville de Kisangani. Le monde a célébré hier la journée de la médecine traditionnelle africaine afin de promouvoir le rôle important que la riche biodiversité des plantes et des herbes médicinales joue dans l'amélioration du bien-être sur le continent africain. À cette occasion, Mike Kapala, président du Conseil national des tradipraticiens, a reconnu les avancées enregistrées dans l'organisation de la Corporation des tradipraticiens RDC par le ministère de la Santé publique. Ce dernier a intégré notamment la médecine traditionnelle dans le système national de santé publique. Mike Kapala, président du CNTP, au micro de Tati Mapoku.
Nous remercions d'abord son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, médecin de la médecine moderne, mais il a organisé la médecine traditionnelle, premièrement, en intégrant la médecine traditionnelle dans le système national de santé publique, en octroyant un pavillon à l'hôpital général de référence, pavillon 16, ex Mamayemo, au Conseil national des tradipraticiens pour leurs activités. Le Conseil national appelle tous les tradipraticiens et tous les tradipraticiens sont en train déjà de venir pour se faire enregistrer, comme dit la loi. Tout tradipraticien doit être enregistré au tableau du Conseil national de tradipraticiens, parce que c'est le conseil qui donne le tableau, la liste des gens qui sont reconnus au ministère de la Santé.
Notez qu'à l'occasion de la commémoration de la journée de la médecine traditionnelle africaine, l'OMS a reconnu l'émergence des traitements prometteurs à base de médicaments traditionnels dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Des essais cliniques définitifs pour différents produits se font, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria, en Ouganda et en RDC. Je vous le disais en titre, au Kasaï central, une épidémie ravage les bêtes dans le territoire de Dibaya depuis plus de deux mois. Elle se manifeste par une diarrhée et touche principalement les chèvres. L'alerte est donnée ce mercredi à Radio Kapi par le coordonnateur d'une structure de la société civile dénommée SECODEC. Ali Chitoko parle d'une situation qui a déjà touché plus de 10 000 bêtes et demande l'intervention des autorités compétentes. Ali Chitoko, coordonnateur de SECODEC, explique au micro de François Kadima.
Ça fait deux fois que cette épidémie se déclenche et ravage nos bêtes. On ne sait pas ce qu'est une maladie. Lorsque cette épidémie touche la bête s'affaiblit et commence la diarrhée. Deux ou trois jours, elle succombe. Nous avons demandé si les autorités ou l'exécutif provincial pouvaient venir en aide. Le vétérinaire nous a dit qu'exactement il avait envoyé son rapport plus de deux fois. Mais notre désolation est que le gouvernement provincial ne parvient pas ni à envoyer ses techniciens ni à évaluer la situation parce que c'est l'économie de cette entité qui s'effondre. Et nous allons peut-être entrer dans une phase où toute la population sera découragée d'élever. Or, l'élevage constitue une économie forte pour la scolarité de nos enfants, ainsi que même d'autres besoins supplémentaires. Nous évaluons déjà cela à plus de 11 à 12 000 bêtes quand nous parcourons tous les territoires de Dibaya dans tous les cinq secteurs, ainsi que les groupements.
Cette information est confirmée par l'infirmier vétérinaire de Dibaya, François Tchaba, explique avoir déjà écrit aux autorités provinciales par rapport au vaccin qui doit être trouvé rapidement pour mettre fin à cette épidémie qui touche également les volailles. Plus de 300 élèves officiers de l'Académie militaire de Kananga ont été admis au grade de sous-lieutenant. La cérémonie s'est déroulée hier au cours de la collation des grades au sein de cette institution. Il s'agit de la 32e promotion ordinaire et la 16e spéciale. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris part à cette cérémonie. Direction la province du Kwilu, cette grogne des agents agricoles attachés au programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers, Papakin en sigle. Ils sont au nombre de 17 qui ont travaillé auprès des paysans dans le cadre de la sécurité alimentaire dans le territoire d'Idiofa. Ils réclament leurs arriérés de salaire de 18 mois. Après avoir été à l'antenne de Papakin à Kikwit pendant au moins 20 jours pour le suivi, aucune solution n'a été trouvée, disent-ils, raison pour laquelle ils demandent à la coordination nationale à Kinshasa et à toutes les autorités attitrées de trouver solution à leurs revendications. L'ingénieur Pete Nzundu Alfred est leur porte-parole de circonstance. Il a été joint par Irène Boma.
Les agents agricoles dans le territoire d'Idiofa, ministère de l'Agriculture, attaché au Papakin, viennent de taper à la ville de Kikwit 20 jours pour la réclamation de leurs arriérés des services rendus au Papakin. Depuis 2014-2020, ayant travaillé pour la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités auprès des paysans dans l'étendue du territoire d'Idiofa, dans le Kwilu. À cet effet, demandons à toutes les autorités au niveau national et provincial pour remédier à notre problème de litige. 18 mois.
Que Papakin n'a pas encore payé. C'est-à-dire, nous sommes de
politique pour l'année 2018 et 6 mois de l'année 2017. Au ministre de l'Agriculture, Pilou, à l'inspecteur provincial de l'Agriculture et à l'administrateur politique du territoire du Dauphin, ne sont pas payés durant il y a 18 mois passés. Nous réclamons nos arriérés de salaire. Nous avons longtemps travaillé. Pourquoi nous sommes venus à l'antenne? À l'antenne, là-bas, il n'y a pas de solution. Alors nous réclamons la coordination. Oui, la coordination, c'est au niveau de Kinshasa.
Actualité internationale.
Nous sommes au Maroc. Après avoir déjà vacciné près de 33 millions d'adultes contre le coronavirus, le pays a lancé depuis mardi sa campagne de vaccination en faveur des plus jeunes. Les enfants de 12 à 17 ans vont pouvoir recevoir une première dose de vaccin à quelques jours de la rentrée scolaire, une annonce qui est loin de faire l'unanimité. Le Royaume-Uni a ouvert des discussions avec les talibans pour obtenir un libre passage pour ses ressortissants et alliés hors d'Afghanistan, ce après la prise de contrôle du pays par le mouvement islamiste radical. L'AFP a obtenu confirmation aujourd'hui auprès du gouvernement britannique du déplacement à Doha de Sir Simon Gass, représentant spécial britannique pour la transition en Afghanistan, pour rencontrer les leaders talibans.
L'invité.
Comme chaque année, le monde a célébré le lundi 30 août, la journée internationale des personnes disparues, une journée qui nous rappelle que derrière chaque personne, il y a une famille qui cherche un être cher. Mais qu'est-ce que cette journée représente spécifiquement pour la région de Beni? Quels sont les mécanismes mis en place pour retrouver les personnes disparues? Ces questions et bien d'autres ont été posées au coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni, Jean-Paul Capitula. L'invité de ce journal répond aux questions de Marc Marofimbo.
Monsieur Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Se trate où c'était la journée internationale pour se souvenir des personnes perdues. Pour vous, de la protection civile, qu'est-ce que cette journée représente?
Et d'abord, je vais commencer par l'hommage à tous ceux-là qui ont été portés disparus depuis les années 2010, vous le savez. Cela a commencé par des kidnappings où on devait parler de réseau mémoire docteur Mukongoma. On doit voir tous les trois prêtres à Mbaou, les deux prêtres à Bunyuka. Là, je ne cite que les hautes éminentes personnes. Mais je vois cette population qui, en fait, paysanne, est portée disparue du jour au lendemain, depuis 2010 jusqu'à nos jours. Et cela, pour la protection civile, ça représente une journée à principe où chacun de nous devrait s'arrêter pour dire qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ce genre ne soit pas porté disparu, ou pour que ces gens ne soient pas retournés dans leur famille, et que cela doit interpeller tout le monde dans sa mission, et non seulement les acteurs de protection, et non seulement les acteurs de la défense, mais aussi tous les acteurs de la société civile. C'est vraiment une question que tout et chacun de nous doit se dire, saluer cette mémoire, revoir qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour arrêter cette hémorragie de prendre les gens en otage, et surtout les amener dans les lieux inconnus, les exploiter dans toutes les manières. Parce que certains d'entre eux que nous avons la chance de revoir, d'autres sont exploités sexuellement, d'autres ont été exploités économiquement. Et donc, c'est vraiment une vie de calvaire, une vie de souffrance diabolique, quoi, où on essaye d'utiliser les gens d'une manière ou d'une autre.
Est-ce qu'à l'état actuel, il y a du moins un mécanisme mis en place pour la recherche des personnes disparues?
Tout en ne disant pas contraire avec ce que la défense fait, il y a la protection civile en 2016 avait accédé à une liste de plus de 500 personnes qui étaient retournées. Et je crois que cette liste, si je ne m'abuse, nous devons l'avoir dans nos bases de données. Mais actuellement aussi, vous le savez, certaines fois, il y a des personnes qui reviennent, mais ce ne sont pas tous. Le mécanisme en soi, et ceux qui reviennent parfois, c'est l'armée qui les arrache des forces de main de l'ennemi, ou deux fois, ce sont les personnes qui ont eu le moyen de se soustraire frauduleusement entre les mains de l'ennemi. Et à plus aussi, ceux dont la chance a souri, l'ennemi lui-même le renvoie. Donc, il faudra peut-être qu'on planifie un mécanisme qui est bien coordonné, qui est bien géré, et que toutes les parties prenantes sachent comment nous pouvons faire lorsque l'un de nous est porté disparu pour arriver à le retrouver.
Oui, monsieur le coordonnateur, la fois passée, la Convention pour les respectateurs des Roms, CRDH, avait proposé que la population initie les mécanismes de vite aller auprès de l'état civil ainsi que la protection civile pour identifier leurs membres disparus. Vous êtes d'avis de cette idée de CRDH?
Je crois que moi, je ne dirais même pas que c'est l'idée venue de eux, mais nous avons tout un projet qu'on a construit dans ce sens.
Nous avons déjà les ébauches, je veux vous dire par exemple lors des procès qui ont été dits ici par le feu général Mokoutou. La protection civile a émis des actes d'inhumation et des actes de décès que la protection civile elle-même a sensibilisé les familles à autant faire pour essayer de nous éclairer sur la situation des personnes portées disparues, des personnes tuées et j'en passe. Mais c'est un mécanisme qui est contenu dans notre plan de contingence, qui est contenu dans les différents documents de plan de protection. Et que légalement, c'est un mécanisme aussi connu, la population ignore seulement, ignore l'importance des actes de décès et des actes d'inhumation. Et j'ai toujours attribué ça à la souffrance longtemps affectée à cette population. On a déjà une traumatisation et des fois on part du non important et même oublier ce qui est très important. Et donc je dirais que nous devons ensemble, par contre, avec tous les acteurs de la société civile, les organisations des droits de l'homme et toutes les radios, sensibiliser la population sur l'importance des actes de l'état civil, mais aussi l'importance d'alerter auprès de la protection civile lorsque on a connu un problème de protection.
Monsieur Jean-Paul Capitola, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni répondait aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotachi Vueta sous la supervision de Pele Kipela Mondo à la technique Willem Lungamba et devant ce micro Belinda Bosuma. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci.